Ouellette, en direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Ah! 13h53. On vit dans un monde où ça brasse énormément, vous l'avez peut-être constaté, ou bien bienvenue à ceux qui viennent d'allumer. On est tous ensemble là-dedans, et il y a différentes façons de réagir à des crises, à des moments difficiles. T'en as qui vont se rouler en boule. Ça, c'est l'exemple extrême, là. Il y en a qui vont se rouler en boule, ils vont gémir et ils vont se laisser mourir tranquillement. Il y en a qui vont essayer de dealer un petit peu, des fois, go, fois, douette, essayer de faire des pressions, essayer de se trouver des alliés. Et t'en as qui sont dans l'action. T'en as qui disent, je vais remonter ces manches-là, puis je vais m'arranger avec mes troubles. Peu importe ce qui arrive, je vais le faire. Et on a un très bon exemple de ça dans les médias cette semaine. C'est l'histoire d'un entrepreneur québécois, comprenez-vous, qui est installé à Saint-Bruno. Une histoire de famille, si j'ai bien compris. Donc, une entreprise qu'un gars reprend de son père et qui continue de la faire progresser et qui progresse bien. Et là arrive la crise, Donald Trump, les tarifs, la panique, la peur. Et cette personne-là se dit « Non, c'est pas vrai qu'on va se laisser mourir. Je prends mes billes, je prends mes patentes et je vais m'installer aux États-Unis. » Pas pour faire plaisir à l'autre, mais bon, en fait, je vais lui demander parce que c'est notre prochain invité. Mais je pense plus dans l'optique de survivre et d'être capable encore d'améliorer et de progresser avec sa compagnie. Mais toutes ces questions-là sont pour lui. Il est président de Technar, une compagnie québécoise, et il s'appelle Alexandre Nadeau. Monsieur Nadeau, bonjour.
Bonjour, M. Lacasse.
Ah, moi, c'est M. Ouellet.
Oh, M. Ouellet. Bonjour, M. Ouellet, désolé.
Mais M. Lacasse est avec moi.
Absolument.
Président. D'accord, c'est lui que j'ai parlé. Bonjour, M. Ouellet.
Oui, absolument. M. Nadeau, vous avez ouvert une usine aux États-Unis. Est-ce que ce que je viens de dire, ça fait du sens ou je suis complètement dans le champ?
On a ouvert ce qui est pour l'instant une usine de vente et service, démonstration, formation de notre clientèle américaine. Et on a incorporé notre entreprise aussi aux États-Unis. Advenant que l'accord de libre-échange qui pourrait être négocié ou les produits de technologie, qui sont pour l'instant pas tarifés, il faut le dire.
Ouais.
Si les produits technologiques comme ceux de Technar reçoivent une barrière tarifaire, il est possible de faire un assemblage final de nos produits sous la bannière de Technar USA. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'appelle un prix de transfert. Ça veut dire que le Technar Canada va vendre à Technar USA des lots de pièces qui devront être assemblées finalement. Rien de compliqué, mais ça permet de, dans le fond, comme on est une compagnie qui vend des produits technologiques, les marges brutes sont élevées. La structure de prix de transfert, faut voir avec des spécialistes, mais quelque chose qui ressemble à cost plus 15%, là, faut pas que les gens pensent que c'est toujours comme ça. Là, il y a plusieurs façons d'établir un prix de transfert. Mais bref, quand on est à forte marge en produits technologiques, ça permet de vraiment, avoir un tarif, mais seulement sur quelque chose qui est bien inférieur à la valeur au marché. Puis ça nous permet de rester compétitif sur le marché américain.
Donc, tu sais, si je comprends bien, parce que de toute façon, c'est valide pour pas mal la majorité des produits. Là, je pense que c'est autour de 86 ou 7 des produits qui ne sont pas touchés actuellement par les tarifs. Mais vous auriez pu aussi dire, comme je le vois, il y a bien des entreprises, je pense qu'ils vont peut-être le regretter, mais qui se disent, on va attendre, on va voir, on verra comment ça se passe. Vous êtes plus dans le proactif, vous êtes dans la prévoyance. Vous avez dit, garde.
On est prêt.
Est-ce que vous l'auriez fait autrement? Tu sais, mettons, je sais pas, là, on est encore sous l'ère des démocrates, puis il n'y a rien qui bouge, et il n'y a rien sur le radar. Est-ce que c'est un move que vous auriez peut-être pensé faire ou que c'était pas nécessaire avant?
C'est curieux. Alors, il y a toujours un « Buy in America » qui existe aux États-Unis, puis je respecte leur attitude. Et nous, c'était une menace qu'on soit quand même canadien. J'ai des compétiteurs qui sont texans, qui marketent beaucoup ça. Et quand on a vu l'attitude de l'administration actuelle à Washington, on a dit, bon, ben là, je pense que c'est le moment d'investir. Indépendamment de la stratégie de peut-être répondre aux tarifs, d'investir aux États-Unis pour être sûr qu'on ne se faisait pas attraper par le Buy American. Fait que c'est un produit qui est encore pas, il n'est pas écrit label d'assemblée aux États-Unis, mais le fait qu'on a des machines démonstrateurs, des Américains qui reçoivent des Américains. Moi, j'ai des clients qui n'ont même pas de passeport. Donc, maintenant, ils prennent un avion rapide, ils vont à Houston, ils opèrent nos machines, ils les achètent. Fait que nous, ça a quand même été un peu, en anglais, là, un incentive là, pour...
Ça a facilité certaines opérations.
Oui, ça nous a convaincus que c'était le temps de le faire. Nous, on est une PME. Hein. Les grandes entreprises sont déjà toutes installées, mais les petites entreprises qui réfléchissent à être agressifs, puis souvent, on a profité du marché américain, pas dans l'ombre, mais tu sais, sans qu'il n'y ait pas trop de remous. Mais là, c'est peut-être le temps de revoir comment on fait les affaires avec les Américains.
Vous dites PME, mais quand même, là, je vais juste relativiser. On est probablement plus dans le moyen gros que petite entreprise, parce que je vois quand même que vous avez des installations un peu partout dans le monde. Vous êtes maintenant installé aux États-Unis. Vous voulez agrandir la shop ici au Québec. En même temps, l'objectif d'une PME, c'est de grandir puis peut-être un jour devenir une multinationale. Je vois que vous avez aussi, vous faites des affaires en Chine. Concernant la Chine et l'attitude, je trouve un peu dangereuse, dans ce que ça a l'air, là, dans le sens où là, on est en train un peu de dire aux Canadiens, ben là, les Américains, c'est un peu terminé, on va se virer vers la Chine. Vous faites des choses en Chine, vous êtes maintenant installé aux États-Unis. Est-ce que c'est une bonne attitude politique, ça, de dire aux gens que les Américains, c'est plus un bon partenaire?
Ben, je veux dire, je pense qu'un entrepreneur qui développe la technologie, premièrement, il faut comprendre que c'est 20 ans de développer de la vraie technologie puis changer le monde avec. C'est 20 ans de travail.
Ouais.
Et une fois qu'on y est arrivé, on est dans un marché pour 20 à 30 ans. Donc, vous comprenez que les cycles politiques, ça passe.
Ouais.
Mais nous, on est en affaires. J'ai 85 employés ici. On a reçu des millions de dollars de subventions et on a des dizaines de millions de dollars de revenus de l'extérieur qu'on redépense dans l'économie canadienne. Tout ça va bien au-delà d'un régime politique temporaire. Là. Donc nous, on fait des affaires, puis c'est comme ça pour n'importe quel homme d'affaires. La Chine n'est pas risquée en ce sens qu'elle est extrêmement business. La Chine, c'est comme les Américains des années 60, mais sur les stéroïdes. Ouais. Donc
ils ont du retard à rattraper. Là.
Mais son business à mort, c'est vraiment facile de faire l'affaire avec la Chine. Ils payent tous leurs contrats, ils sont raisonnables dans les négociations. C'est un très grand partenaire avec nous depuis au moins 10 ans. Et on augmente notre présence, j'ai des employés permanents en Chine. Ça va toujours très bien avec la Chine. Donc ça, c'était toujours en croissance. C'est plus l'Europe et le Moyen-Orient qui sont des pays où on investit davantage un peu en ce moment. Dans la diversification, qui est un peu une réponse à l'administration américaine, où il faut prévoir un peu... le pire, puis d'investir. Puis c'est d'investir à l'international qui coûte un peu plus cher. Puis est-ce qu'il y a assez d'aide en ce moment dans les paliers gouvernementaux pour nous aider à financer tout ça? Peut-être qu'il pourrait en avoir plus, mais bref, c'est la décision.
Mais je repose ma question, tu sais, de faire à croire ou de faire miroiter aux Canadiens qu'on pourrait se passer des Américains, c'est pas dans un monde réel, ça?
Non, en fait, non, pas du tout. Je représente seulement la technologie, les petites PME. Il y a beaucoup d'autres secteurs industriels, gestion de l'offre, commodité qui peuvent avoir des opinions différentes. Mais dans le domaine de la haute technologie, il n'y a pas de frontières. Puis les marchés sont internationaux, peu importe. On a dans nos poches des iPhones parce que c'est quand même le meilleur téléphone au monde. Les gens prennent du Ozempic, ça vient du Danemark parce que c'est le meilleur médicament. Je veux dire, dans la haute technologie, il n'y a absolument pas de frontières. Dans la mesure que les droits de l'homme sont respectés et tout, là, on vend pas en Russie, ni en Iran.
Ouais, mais là, là-dessus, la Chine, on pourrait se questionner, là, mais bon.
Ben, je crois que les Américains, les Chinois perçoivent les Américains encore de façon encore plus bizarre, je pense, que les Américains perçoivent les Chinois. Donc, il faut vraiment y aller, puis il faut voyager pour avoir une espèce d'ouverture d'esprit peut-être un peu plus assise sur une expérience concrète, là, mais les Chinois sont... c'est un pays. Si t'as des choses à cacher, la Chine, c'est pas le bon pays, ça, c'est entendu. Mais sinon, c'est très facile, la vie en Chine.
Vous avez dit quelque chose qui m'a quand même étonné, là, puis c'est pas à la mode de présentement dire ça, mais vous avez quand même dit, puis vous le dites aussi, là, que le monsieur au sud, c'est peut-être pas votre préféré, mais vous dites quand même que l'effet Trump, j'ai un article ici là, sur votre histoire, et on dit l'effet Trump a été bénéfique pour les compagnies qui ont dû innover, prendre des décisions stratégiques. Et vous dites un peu que s'il n'y avait pas eu cette espèce de raz-de-marée-là, Trumpiste, peut-être que les gens se seraient un peu assis sur leur laurier. Vous savez que ce n'est pas à mode. En même temps, moi, je pense que vous touchez quelque chose d'assez intéressant. Là.
Oui, bien là, c'est vraiment pas bon pour tout le monde, là, ce qui se passe avec les tarifs. Je veux juste me recadrer, mais dans les entreprises qui sont des moyennes et petites comme nous, ça nous force vraiment à faire les... Moi, je suis en technologie, OK? Fait qu'il faut faire la meilleure chose au monde et non juste la meilleure chose qui se vendrait aux États-Unis. C'est très différent. J'ai dit tout le temps que le Canada, ça devrait être un pays qui se comporte comme un pays scandinave. Les Scandinaves, à 5-6 millions de personnes là, par pays, là, quand ils font quelque chose, une compagnie doit faire la meilleure chose au monde, parce que c'est clairement pas le marché interne qui va soutenir. Donc, il faut qu'on pense comme ça, il faut qu'on pense international. Et là, c'est pas tout à fait la même joute au niveau des produits puis de l'offre quand tu es en technologie puis tu vises un marché international. Ça nous force à faire ça. C'est très dur à court terme. Je pense qu'à moyen et long terme, ça sera très bon. L'administration américaine sur le plan humain, je pense que c'est une catastrophe, mais je veux dire, ça
mais ça a brassé la soupe peut-être d'une économie qui est un peu en train de s'en pantoufler, là.
Peut-être. Moi, j'aime bien les pays scandinaves. Je pense que ce qu'ils font, leur vision internationale immédiate sur tout ce qu'ils essaient de développer, c'est un peu comme ça qu'on doit penser ici. Puis des fois, un produit qu'ils vendent aux Américains n'est pas du tout le même produit qu'ils vendraient partout dans le monde.
Dans la business au Québec, M. Nadeau, là, ça a l'air très complexe. Là. Des fois, on parle à des entrepreneurs, puis ce qui vient souvent sur la table, c'est la bureaucratie, c'est les normes, c'est les lois, c'est la paperasse, à plus savoir comment en faire. Vous avez des bureaux un peu partout dans le monde, vous faites de la business à l'étranger. Y a-t-il une si grande différence que ça entre faire de la business ici, par exemple, aux États-Unis, au niveau de la bureaucratie?
Mes clients québécois, vous voulez dire, par rapport à mes clients américains?
Juste faire de la business.
Faire de la business ici au Québec en comparaison à faire de la business aux États-Unis. Au niveau est-ce que le gouvernement impose, il y a une grande différence?
Non, ça va bien. Mais mes clients, c'est des entreprises entre 100 et 200 employés à peu près au Québec. Ça, c'est très facile. C'est comme l'Amérique du Nord en général. Le Mexique est un tout petit peu plus compliqué, mais les États-Unis et le Canada, c'est très, très similaire. Les pays qui sont plus complexes, les pays du Moyen-Orient, l'Inde... Le Japon, c'est compliqué. Mais sinon, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, la Chine en particulier, très facile.
Monsieur Nadeau, merci beaucoup. Et je vais vous souhaiter là, une expansion extraordinaire pour Technor, votre compagnie. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous parler aujourd'hui.
C'est bien gentil, les gars. Bonne journée.
Merci, au plaisir, Alexandre Nadeau, président de Technor. 14h05, on fait une pause, on revient. Stéphane Fizette au retour.
Ouellette, en direct.
Radio. Et